bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Vous avez écouté l'émission de la Forêt des Possibles en partenariat avec Écoforum. Nous sommes le mercredi 7 février 2024 et comme tous les mercredis, nous sommes en direct de 19h à 20h. Cette émission sera en rediffusion demain, jeudi 8 février de 9h à 10h et vous pourrez la réécouter sur le site Radio Galère dans la rubrique Écoforum ainsi que sur Spotify et Deezer en tapant La Forêt des Possibles. Chères auditrices, chers auditeurs, quel que soit l'endroit d'où vous nous écoutez, dans votre voiture, chez vous, en replay, probablement que, comme nous, vous vous posez des questions sur l'état du monde et que ça vous préoccupe. Vous observez le dérèglement des saisons. Il a fait 18 degrés en plein janvier. Les tensions sociales, comme la colère des agriculteurs ces dernières années. Et puis, il y a les tracas du quotidien, le travail, l'inflation, le temps qu'on accorde à nos proches et à nos passions. Alors, comment concilier cela? Comment faire quand tout nous dépasse? Comment trouver sa juste place dans un monde incertain? Ce sont des questions auxquelles nous tentons de répondre chaque mercredi sur les ondes de Radio Galère. La Forêt des Possibles donne la parole aux acteurs et aux actrices qui pensent et font les transitions écologiques et solidaires de Marseille et sa région. Eux aussi se sont posé plein de questions. Leur parcours ressemble d'ailleurs probablement au vôtre. Ils et elles se sont engagés. Ils et elles ont créé leur projet. Ils répondent à des problématiques du territoire. Et surtout, leurs projets se complètent les uns les autres. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés. Mais ensemble, ils forment une grande forêt qui, chaque jour, s'enracine, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. Chères auditrices, chers auditeurs, l'émission de La Forêt des Possibles est une grande invitation. Nous pensons que vous aussi avez votre juste place à prendre, du moi au nous et du nous au tout, dans une société qui respecte les besoins humains et les ressources de la planète. Semaine après semaine, nos invités témoignent qu'il est possible de bâtir collectivement le monde de demain. Je m'appelle Marin Moffret. Je suis ce soir accompagné par Claire.
Bonsoir.
Et Claire, je vais te laisser la main pour présenter nos invités que sont Anaïs et Karl qui vont nous parler du talus.
Oui, je suis vraiment ravie ce soir de recevoir l'équipe du talus. Alors, c'est un tiers-lieu incontournable à Marseille qui fait référence en France, mais j'ai envie de dire même au-delà de nos frontières, puisque ça est un lieu qui a déjà été cité aussi à l'étranger. Le talus a été ouvert en 2018 par Écofarm, l'association Écofarm, mais qui n'a pour seul projet que le talus, tu me disais, Karl. C'est un îlot de verdure situé derrière le cimetière de la Timone. C'est ça ?
Le cimetière Saint-Pierre.
Le cimetière Saint-Pierre, très bien. Un cadre exceptionnel bordé de cette autoroute, enfin cette voie rapide qui est la L2, du quartier Herbel avec ses tours, aussi à l'horizon ce massif montagneux. Un lieu vraiment exceptionnel et qui fait figure de référence sur Marseille. Donc ouais, je suis vraiment ravie de vous accueillir ce soir. Et pour commencer, bonsoir.
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 Alors Anaïs, Karl, est-ce que vous pouvez vous présenter votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené à vous investir dans le projet du talus?
Oui, alors bonjour, moi je m'appelle Karl Pfanner, je suis originaire de la région de Lyon où j'ai grandi et je viens d'un milieu qui n'était pas du tout celui dans lequel je travaille aujourd'hui, donc j'ai des parents qui étaient industriels et politiques. Et j'ai fait une école de commerce, ce qui ne m'a pas du tout prédestiné à faire un projet comme celui-ci. Mais ça m'a accordé pas mal de compétences et de compréhension sur la manière dont la société peut fonctionner, dont on peut monter un projet. Et pendant l'école de commerce, j'ai quand même eu une sensibilisation à l'environnement qui a été rapide et accélérée. Ce qui a fait que j'ai développé une sensibilité écologique forte. J'ai commencé également à développer une éco-anxiété qui va souvent avec. J'ai eu des expériences professionnelles. On va dire que j'ai tiré la corde de l'écologie pour essayer de comprendre comment on pouvait résoudre le problème. J'ai d'abord commencé par croire en le technosolutionnisme. J'ai travaillé chez Tesla dans les voitures électriques. J'ai parlé à beaucoup d'ingénieurs qui m'ont convaincu que ce n'était pas une solution. Pour plein de raisons. Je me suis ensuite dit qu'il fallait une électricité renouvelable si on voulait que ce rêve devienne réalité. mais que les énergies renouvelables étaient freinées par l'absence de stockage d'énergie. Du coup, j'ai fait un mémoire sur le sujet et je suis allé travailler dans une entreprise qui faisait des batteries écologiques rechargeables pour parler à beaucoup d'ingénieurs et me rendre compte que ce n'était pas non plus une solution. Et finalement, je me suis dit qu'il fallait travailler, créer une activité autour de ce qu'on cherche à protéger, c'est-à-dire la nature en elle-même. Et je me suis, après ça, beaucoup intéressé au secteur de l'agriculture et tous les problèmes qu'il peut y avoir dans ce monde-là, avec notamment, dans 20 ans, une moitié des agriculteurs qui ne seront plus parmi nous, qui seront à la retraite. Très peu de vocations pour les remplacer. Un monde qui va assez mal et surtout une agriculture qui n'est plus du tout en lien avec le vivant. Et au fur et à mesure de mon intérêt pour l'agriculture, je suis arrivé personnellement à Marseille et j'ai rejoint un groupement de deux personnes principalement et de quelques bénévoles au sein d'une association qui s'appelait initialement Éco-Permaculture. Mmh. Et qu'on a monté pour faire des projets de ferme urbaine en milieu méditerranéen.
Ok, formidable. C'est super intéressant d'avoir ton parcours et de voir que d'école de commerce à Tesla, énergie renouvelable, tu es arrivé à quelque chose de très concret qui est l'agriculture. Et pour rebondir sur le chiffre des agriculteurs qui partent à la retraite, moi j'ai entendu que c'était 50% de nos agriculteurs qui seront retraités d'ici 2030.
Ah oui, donc c'est 10 ans maintenant.
C'est ça.
C'est vrai que le chiffre de 20 ans, c'était il y a 10 ans. Donc
voilà, on y est. Et même pas dans 10 ans, hein, dans 6 ans. On se demande comment on va manger. Anaïs, est-ce que tu nous présenterais ton parcours ?
Bien sûr. Du coup, moi, je m'appelle Anaïs Ricou. Je suis originaire du Var. Et j'ai plutôt fait une scolarité dans le domaine des géosciences. Qui débute par des sciences assez fondamentales, géologiques, et après un petit peu un master davantage tourné autour de la géographie physique et du lien justement entre les phénomènes naturels et un petit peu la répartition de la population sur le territoire et sur la planète et des interactions justement qu'on fait avec notre environnement. Tout ça dans le domaine de la recherche et quelques expériences dans des petits instituts de recherche à Marseille, à Nice à Marseille et en Inde du Sud. Dernière expérience professionnelle. Oh non, il y en a eu encore une à Marseille, bref. Et domaine que j'ai vraiment aimé pour approfondir des connaissances, des compétences et évidemment s'enrichir des travaux des uns et des autres. Mais domaine assez fermé, en tout cas personnellement, sur le plan de la transmission. Et donc, suite à ces années, j'ai poussé la porte du Talu qui recherchait un ou une animatrice environnement pour justement transmettre un petit peu ses compétences au grand public et pas seulement à des collègues de bureau, ce qui était mon cas. Et du coup, voilà, le projet m'a tout de suite plu, parlé. Travailler en extérieur, sur l'environnement, de manière un peu plus concrète que le domaine de la recherche. Et justement, pouvoir mettre en application tout ce qu'on... Évidemment qu'on ne fait pas que théoriser, mais tout ce qu'on apprend et créer un peu un lien entre les acquisitions vraiment théoriques et avec la transmission pratique.
Ok, super. Je suis ravie d'en savoir plus sur ton parcours très axé scientifique et je vois la complémentarité entre vos deux profils. On a l'approche vraiment scientifique, l'approche plus peut-être commerciale de ton parcours. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous êtes tous les deux donc co-directeurs, co-directrices du Talu à ce jour. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur comment le lieu s'est monté ? Donc, il a été ouvert en 2018. Il me semble qu'auparavant, c'était une friche suite aux travaux de la L2, donc cette fameuse route qui a été construite pendant des années. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit peu l'historique, Karl, de comment ça s'est monté ? Et toi, Anaïs, ça fait combien de temps que tu as rejoint le Talu ?
Eh bien, ça va. J'entame ma cinquième année. Ça fait 4 ans que je
travaille
au Talu.
Donc en fait, tu es dans le projet depuis le début, pratiquement.
Ça avait déjà une belle carrière. Le projet avait à peu près 2 ans.
Ok. Pendant ta chronologie des faits, s'il te plaît, dis-nous à partir de quel moment Anaïs a rejoint le projet.
Ok, alors c'est toujours extrêmement compliqué, je trouve, la chronologie des faits, parce que dans un énorme flux de projets, en fait, le dernier truc qu'on retient, c'est les dates. Mais c'est vrai que, bon, au début, du coup, on s'est retrouvé dans cette association Éco-Permaculture pour vouloir faire des projets de nature en ville. On a passé des mois entiers, des années à chercher des terrains. Et en fait, on a galéré un petit peu parce qu'on a approché plein de collectivités publiques, d'acteurs privés. Et puis, c'était soit trop lent, soit c'était pas possible. On achetait beaucoup de bouteilles à la mer. Et finalement, après avoir passé du temps à se faire la main sur des potagers dans des écoles, à des îlots de bacs potagers en cœur de quartier et monter des petits projets à droite à gauche comme ça, on a eu la confirmation par la société de la rocade de la L2 qui gère en fait les terrains de l'État et la construction du périphérique de la L2, qu'il nous faisait confiance pour lancer ce projet sur des délaissés de chantier qui n'utilisaient plus pour la construction de cette autoroute. Donc on parle de deux parcelles de respectivement 3500 et 4500 m2, de part et d'autre du couvert donc enterré de l'autoroute, le long de la rue Saint-Pierre. Donc c'est 8000 m2 en ville, c'était inespéré pour nous, on a trouvé vraiment un terrain assez dingue. Sauf que du coup ça faisait des années qu'il n'était plus utilisé et il était devenu en quelque sorte un dépôt sauvage. Mmh. Il n'y avait pas de clôture, tout le monde venait déverser un petit peu ses déchets sur ses parcelles. Et donc on s'est dit, c'est peut-être jouable, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas c'est la seule option qu'on a à ce jour. Et il fallait qu'on fasse quelque chose, qu'on se bouge. Donc on a dit ok, on est parti avec ce terrain. Puis en fait là on s'est retrouvé en avril 2018 avec un casque de chantier sur une parcelle un petit peu défoncée. Mais sur la première parcelle qui est un petit peu plus de typologie pleine terre, on a souhaité développer une ferme urbaine en premier lieu.
Okay.
Et donc on a enlevé tous les déchets inertes, on a refait une topographie, un terrassement, et on a fait surtout une expérimentation de recréation de sol vivant sur un endroit qui était tout ce qu'on peut appeler un sol mort, c'est-à-dire du remblai bien béton avec plus de vie du tout dedans, quelques nutriments, mais voilà, il y avait rien qui était propice à une fertilité. Et donc il y a une super vidéo YouTube d'ailleurs sur le sujet où on explique vraiment tout. Et on a ramené 600 tonnes de compost de la ville de Marseille et qu'on a mélangé un petit peu avec les différents horizons de sol pour recréer une fertilité. C'était un gros pari. Il se trouve que ce pari a très bien fonctionné puisque ça a recréé les conditions d'un sol vivant et d'une fertilité assez riche. Et puis sur ce sol, on a commencé à créer toutes les briques qui viennent constituer le talus parce qu'on n'est pas un projet fermé sur nous-mêmes mais vraiment ouvert au public. Donc on a rajouté des bacs potagers, on a rajouté des serres, on a rajouté une cuisine extérieure, on a rajouté une base de vie ombragée, une mare, des haies fruitières en agroforesterie. On a rajouté plein de petites choses comme ça qui font le beau jardin qu'on connaît aujourd'hui. Et on avait une vision relativement claire de ce qu'on voulait créer à la base, mais ce projet s'est quand même construit sur la base de l'expérience et des différents retours qu'on a pu avoir en plein dans la construction et des besoins qu'on avait aussi. Et après, 2 ans plus tard, on a récupéré la deuxième parcelle du projet qui s'appelle Le Village et qui est en fait beaucoup plus minérale. C'est une grande dalle béton avec un grand mur de soutènement en béton de la SNCF. Et sur ce terrain, on s'est dit, on ne peut pas faire vraiment la même chose que sur la première parcelle. Ça ne va pas être un grand jardin urbain, mais par contre, ça peut être un lieu de fertilité associative, citoyenne, qui est parfaitement connexe avec le projet qu'on cherche à porter, parce que c'est un projet qui est écologique, qui est social et qui est citoyen, et tout ça peut exister dans différents contextes. Et donc on s'est dit, on va utiliser les ressources qu'on a sous la main pour essayer d'en tirer le maximum, à savoir du béton, ce qui nous a servi à faire des fondations pour poser un petit Tetris de containers maritimes. Il y en a 15 aujourd'hui au village et qui viennent accueillir en fait des résidents associatifs et plein d'activités du talus complémentaires. Donc voilà, et aujourd'hui on est en 2024 et le projet a mis quand même on va fêter les 6 ans du talus en avril.
Ok, eh bien ça nous donne une bonne vision d'ensemble de ce qu'est le talus. Donc on a ce côté jardin et ce côté village. Moi, j'aimerais bien qu'on entre dans le détail du côté jardin pour commencer. Et tu as parlé d'agroforesterie. Moi, j'aurais aimé que vous me définissiez ce qu'est l'agroécologie, qui est quand même quelque chose que vous utilisez, qui est souvent dans votre communication. En quoi ça consiste exactement, Anaïs?
Alors, l'agroécologie, c'est vrai que ça a inspiré le modèle de la surface de maraîchage qui se trouve au talus. Et c'est une forme, peut-être Karl, je te laisserai compléter, mais en tout cas, d'un point de vue des pratiques qu'on utilise, c'est une façon de produire une production agricole c'est peut-être un petit peu... un petit peu résumé, mais en respectant justement la nature écologique et en essayant de prélever tous les services que peut apporter le fait que ça soit sur un sol vivant et une façon de produire en extrayant les ressources sans appauvrir le milieu. Est-ce que tu as envie de compléter ?
Ouais, mais alors après, c'est toujours des termes scientifiques, donc c'est quelque chose qui peut être défini d'une manière très précise. Nous, avec humilité, on répond dans la manière dont on a été inspiré par ces termes. Pour moi, personnellement, l'agroécologie, c'est agro pour agriculture, écologie pour écologie. Il s'agit d'un rassemblement de tous les itinéraires techniques agricoles qui respectent le vivant, la biodiversité, l'environnement dans lequel ils s'intègrent. Et dans cette agroécologie, il y a encore plein de sous-itinéraires techniques différents.
Comme la permaculture.
La permaculture peut en être un, le bio qui est recoupé dans en fait, un label. Il y a plein de différents labels. Nous, en fait, ce qu'on fait dans l'agroécologie, c'est principalement ce qu'on appelle du maraîchage sur sol vivant, qui est un itinéraire technique qui part du principe que la vie du sol crée la fertilité même qui va permettre de faire pousser de l'alimentation. Et donc, on s'appuie sur des vers de terre, sur des champignons, sur des bactéries, et on les alimente pour qu'elles puissent, à leur tour, nous fournir les nutriments qui vont nous permettre de nous alimenter.
Ok. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce jardin en termes d'aliments, justement, puisque l'idée, c'est d'être une zone maraîchère. Qu'est-ce qu'on y mange ?
On y mange plein de choses parce que c'est un jardin qui produit toute l'année avec des ralentissements en fonction des températures, évidemment un peu ralenti à décembre, janvier et juillet, août. Mais ça suit assez bien les saisons. Beaucoup de légumes feuilles, qui était le modèle initial aussi de cette parcelle productive. Et avec les années, une diversification des cultures, de l'introduction de légumes racines et de légumes fruits. Et donc aujourd'hui, on a quand même un large panel d'espèces méditerranéennes. Je peux donner des exemples si tu
as envie. Avec plaisir.
Du coup, en ce moment, pour avoir passé un bon temps à l'accueil aujourd'hui, ce qui m'a ravie, on trouve de l'oseille, des épinards, que dire, du persil et de la coriandre. Je crois qu'il y a des beaux radis ou des navets. Et on produit également de manière hebdomadaire un mesclun, qui est en fait une composition de jeunes pousses comestibles et qui a été produit aujourd'hui en chantier. Alors là, je ne suis pas capable de reproduire la composition, mais c'est voilà, des jeunes pousses délicieuses avec des légumes fleurs.
Ok, et tout ce qui est produit, est-ce que c'est à destination du restaurant que vous avez sur place ou est-ce que ce sont les bénévoles, parce que du coup c'est ouvert au public? Est-ce qu'on les considère comme des bénévoles, ces personnes qui viennent travailler dans le jardin? Voilà, est-ce qu'ils repartent avec tout ça? Est-ce que vous vous vendez?
Alors, le modèle du talus, initialement, est basé sur le fait d'avoir une parcelle de champ productif. Donc il fait 800 mètres carrés, si on enlève les passe-pièces, ça fait 500 mètres carrés, ce qui est très peu. Pour produire de l'alimentation, en fait, nous, on cherche à repositionner un petit peu le talus dans ce qu'il est, c'est-à-dire on n'est pas là pour nourrir la ville, on n'est pas non plus là pour résoudre une crise alimentaire, on est principalement un lieu qui fait une production à son échelle, qui a un aspect de sensibilisation, mais on n'est absolument pas en mesure d'alimenter, par exemple, le restaurant qu'on a sur place. Donc, il y a plein de petites choses comme le mesclun, les aromatiques, les fleurs. Des fois, on a des surplus de certaines productions qu'on utilise en cuisine, mais c'est absolument pas le gros des denrées qu'on a, qu'on vient sourcer des différents agriculteurs bio du territoire. tout simplement. Et en fait, on vend les légumes aux adhérents directement sur place avec un modèle qu'on appelle l'autocueillette où chacun peut aller en fait cueillir les quantités qu'il souhaite et pour que ça reste de la façon la plus fraîche possible, que chacun prenne ce dont il a besoin dans le champ et qu'il puisse aussi être en contact avec, avec le fait de récolter un légume puisque ça fait partie à part entière de l'expérience.
Oui, c'est vrai, c'est ça, il a l'expérience d'aller choisir sa salade dans le jardin, de repartir avec, et quand il la déguste, elle a forcément une meilleure saveur, sa salade. Il y a aussi des petits bacs potagers qui sont à la location, c'est pour 52€ à l'année, tu m'avais dit 1€ symbolique par semaine. Ça, c'est, je trouve que c'est génial, ça permet d'avoir son petit lopin de terre quelque part dans la ville. Ok, bah en tout cas très riche tout ce qui se passe côté jardin. Et si on traverse cette place qui mène jusqu'au côté village, qu'est-ce qu'on y trouve, Anaïs?
Alors, on y trouve tout un tas d'initiatives tout aussi riches. On y retrouve l'équipe du Talu qui prend aussi ses marques de plus en plus sur cette parcelle village avec l'aménagement d'un bureau en intérieur.
Vous êtes combien à ce jour, l'équipe du Talu?
On est 10 salariés. Okay. On accueille des volontaires en service civique toute l'année qui sont de l'ordre entre 10 et 15 et qui se chevauchent et qui restent environ 6 mois. Et on est accompagné par un conseil d'administration, qui est un conseil collégial. Donc 5 coprésidents, coprésidentes.
Belle équipe.
Ouais, mmh. C'est une super équipe. Et de nombreux adhérents bénévoles. Donc, au village, on a dit l'équipe du Talu, qui occupe une partie des infrastructures. Et de plus en plus, on a élargi la communauté à toute une équipe de résidents village, donc des associations qui sont en lien avec les valeurs portées par le Talu et les actions portées, et qui viennent prendre place dans les containers dont Karl vous a parlé, qui les aménagent en fonction de leurs besoins et qui viennent justement se rejoindre l'équipe et dynamiser cette grande parcelle de 4500 m² en apportant des savoirs différents, mais connexes à nos actions.
Est-ce que tu pourrais nous citer certaines de ces associations?
Oui, bien sûr. Donc, on a l'association qui est là depuis le plus longtemps, qui s'appelle Astérolide, qui est composée de 3 jeunes femmes et qui travaille sur des questions de réemploi et de faire soi-même. Mm-hmm. Peut-être plus autour de la scénographie, mais je pense qu'elles ont un domaine d'activité qui est assez large. Il y a une association qui s'appelle... La majeure partie sont sous statut associatif. Donc, la deuxième, c'est Atelier Charbon. C'est un binôme de constructeurs, initialement, que je ne dise pas de bêtises, graphiste designer, et justement, qui se sont orientés dans la collecte, le réemploi de matériaux et beaucoup de travail du bois et du métal.
Ok.
Récemment arrivé le collectif Sens Inverse, qui sont nombreux et nombreuses et qui travaillent sur des questions de scénographie et de création d'espaces scéniques dans le domaine culturel et surtout musical. Les Shapeatoires, une équipe qui donc confectionne des planches de surf et avec qui on va peut-être faire de la wax en cire d'abeille du Talu.
Ah, parce que vous avez des ruches aussi.
Et parce qu'on a des ruches.
Au Talu.
Et j'ai évidemment oublié des résidents village.
On voit que ouais, c'est très... Bon. Ah, t'allais compléter, Karl ?
Oui, bah pour tous les citer, il y a aussi l'association Autrement Plastique qui fait du réemploi et de l'extrusion de plastique recyclé. On a Icom Provence qui organise un micro-cinéma, petit musée cinéma, dans un langage qui s'appelle le FALC, le facile à lire et à comprendre, et qui permet d'accueillir des personnes qui peuvent avoir des difficultés pour comprendre certains langages et que ça leur permette de faire de la sensibilisation à l'environnement. On a aussi Mycotopia qui produit des champignons à Marseille et qui utilise un petit peu les espaces extérieurs du Talu.
Mycotopia qu'on a reçu à nos antennes il y a quelques temps.
Ça m'étonne pas, le monde est petit et c'est une super émission. Donc,
Marseille Village.
Je vous invite d'ailleurs à inviter tous les résidents qui se situent au Talu et qui ont des projets super.
Tu nous mettras en contact.
Avec plaisir. Et voilà, et pour compléter, c'est vrai qu'on a du coup les espaces partagés. C'est un peu une grande coloc, le Talu Village. Donc on a une cuisine partagée, des bureaux partagés, on a des chapiteaux, une scène, des terrains de pétanque, une buvette, plein de containers qui servent un peu d'appui à tout ça. Et un espace extérieur qui petit à petit s'aménage et permet d'accueillir pas mal de monde. Il y a des ruches qui prennent vraiment pas mal d'importance au talus. Un jardin pédagogique pour les enfants de l'école d'Herbel. Mmh. Et voilà, plein de petites choses qu'on vous invite à venir découvrir.
Donc je vois que la partie village est tout aussi riche que la partie jardin. Et juste pour l'ouverture du public, c'est donc les mercredis et les samedis. Les soirées pour l'été. Notamment en soirée, vous avez toute une programmation culturelle. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel type de spectacle nous pouvons voir au talus ?
Alors, concernant la programmation culturelle, elle est à son tour assez diversifiée. Après pas mal d'années d'expérimentation qui continue toujours, on teste des modèles, des modalités, des typologies d'événements culturels, musicaux, et c'est vrai que on est assez content cette année de présenter une programmation donc tous les mercredis soirs à partir du mois
d'avril
jusqu'au mois d'octobre, parce que pareil, avec les années, on se rend compte qu'on peut très vite trouver ça agréable de passer un moment le soir au talus. Et donc on a depuis un an expérimenté ce qu'on appelle les jardins sonores, donc le mercredi soir, qui nous permet d'accueillir des artistes de la scène locale, de la musique mais aussi des spectacles. Ça nous arrive de proposer des petites pièces de théâtre et pas mal d'art vivant, et toujours accompagné donc se trouvant au jardin et accompagné souvent de l'ouverture, enfin même tout le temps, de l'ouverture de la restauration, qui permet en fait d'allier un agréable moment d'écoute et d'observation avec la dégustation d'un bon repas. Ça, c'est le mercredi soir. Et cette année, on part sur les vendredis soirs, où là, on essaye d'installer une plus grande scène avec plusieurs plateaux, c'est-à-dire plusieurs compositions musicales qui peut-être donnent plus envie de danser, de se lever et de danser. Évidemment, la restauration reste ouverte. Et c'est pareil, on essaye de vraiment se concentrer sur les artistes de la scène marseillaise, mais on reste ouvert à des contenus culturels qui peuvent un petit peu sortir de la ville.
Ok, et du coup, tu as parlé de la restauration, mais bien entendu, on a aussi une buvette.
Oui, toujours.
On a faim et on a aussi soif.
Voilà, la restauration s'accompagne de l'ouverture d'une petite buvette associative avec des consommations assez simples et rafraîchissantes.
Voilà. Et c'est ouvert jusqu'à 23h en soirée ?
Oui, mercredi soir, c'est 22h et vendredi soir, c'est 23h.
De belles soirées d'été s'annoncent, on a hâte. Je vois l'heure qui passe, il est l'heure de faire une pause musicale. Est-ce que vous voulez nous expliquer le titre que vous avez choisi pour cette pause ?
Ouais, bah alors c'est une petite dédicace à la ferme du roi d'Espagne. C'est une petite équipe qu'on adore et qui a eu l'ambition de faire un remix, une nouvelle production de ce titre qu'on connaît tous, qui s'appelle Bande organisée, autour de l'agriculture et des enjeux un peu du vivant. Et on trouve ça assez génial. Et tout le monde ne la connaît pas encore, donc on espère vous faire découvrir ce morceau.
C'est parti, bonne écoute.
Viens les goûter. Roi d'Espagne, légumes bio, bien sûr c'est du quartier.
Bien sûr.
L'oseille on calcule, si tu Prado, on est pro. Ouais. La confiance, maraîcher t'as trop la confiance. Ouais. Les masses goûtées étaient quand je m'étais dans mon terreau dispense. Tu veux nous faire la guerre, je vais t'écraser. Ça prend tes radis, ça prend tes céleris, ça prend ta teuté. Le téléphone bip, faut tout préparer oh. C'est marché mémé,
allez.
Ça m'a rassé bébé. Oh. Wesh alors ma race,
voilà.
Tant qui ou quoi. Dans la remorque, je fais 0 à 20 en 1h03. Tractorisé, y'a assez d'essence. On se croise, c'est sûr, tu es devenu fermier.
J'ai passé la bague à Chiqui Poule, 2 ans après, je l'ai liquidé. Y'a des petits canards, y'a un chat haché et des équidés. Que des phénomènes, je vais te les faire kiffer. On fout le feu nous-mêmes, à Marseille, bébé. Un droit d'être dehors, y'a des minots dans le décor. Biquet, bière sur la canne, bière, chic pécor sur le vieux port. C'est les fermes du sud, c'est les fermes du nord. Nique Leclerc, leur bio de mer. Nique Bayer.
ailleurs que chimique la terre. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça sent le fumier. À nous les terres bétonisées. Basta la bad bouffe qui nique tout. Basta la bad bouffe chimique bouffe. Basta la malbouffe. Basta la malbouffe.
C'est du rural, caillrage. Rap de tout, carotte et chourave. Et ma clique est faite de malades. Collectivement, on se marre grave. Le thé et le S. Les toilettes sèches. Ça te fait yeah, je m'en bats la chenèque, ramène tes fesses. Jeunes et paysans sous les bâtiments qui s'aiment pour la révolte. On guette le dénouement du proche effondrement. L'espoir te voir allier la cause. Et ça fait qu'on va taffer, oh, taffer, oh camarade. J'suis dans le tracteur brouillé, pisté par les deux ânes. Et ça fait qu'on va taffer, oh, taffer, oh camarade. J'suis dans le tracteur brouillé, pisté par les deux ânes.
Oh, à la terre n'obéit, oh, paysans nourrit le pays, oh.
Non mais, c'est ta vraie voix?
Mais non. Yao, à la terre on obéit, yao. Paysan nourrit le pays, yao. J'ai les poches bitumes, si je fais des légumes pour ken le bitume. Mais oui, yao, ce qu'on apporte dans la zone, yao. C'est fort, c'est les bonnes zones, yao. Regarde, ouais, moi j'ai la forme. Forme-toi, monter pour que tu sois farmer. Car c'est trop vrai, la ville a besoin de bergers. De retrouver ses maraîchers. Béton, t'es mauvais, quel gâchis t'y a décollé. La pinède ratatine est cognée par un vieux projet. Tu vois, c'est fou, fou, fou. On fait les malades, bientôt ça sera nous. Que tu l'inviteras car ma clique kick tout. Et nos poules font glou glou glou. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça sent le fumier. À nous les terres bétonisées. Basta la bad bouffe qui nique tout. Basta la bad bouffe chimique bouffe. Basta la malbouffe. Basta la malbouffe. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça sent le fumier. À nous les terres bétonisées. Basta la bad bouffe qui nique tout. Basta la bad bouffe chimique bouffe. Basta la malbouffe. Basta la malbouffe.
Big up à toutes les bandes des terres qui s'organisent. Vive le rap contestataire et vive le travail de la terre.
Rebonsoir, vous êtes toujours sur Radio Galère. Nous sommes toujours en compagnie d'Anaïs et de Karl, l'équipe du TALU. En première partie, on a découvert ce tiers-lieu en plein cœur de Marseille, avec son jardin foisonnant, avec ses salades et ses arbres fruitiers. Et d'un autre côté, sa partie village, avec tout un écosystème d'associations qui œuvrent pour le réemploi, pour... la lutte contre le plastique, les champignons, plein de choses qui s'y passent dans ce fabuleux tiers-lieu. En deuxième partie, on va aborder plus les enjeux sur lesquels vous vous positionnez. La question de l'expérimentation est une valeur assez centrale au sein du TALU. L'idée étant de sensibiliser les habitants, habitantes, mais plus largement les Marseillais, de les inspirer, de leur montrer un autre mode de vie. Peut-être plus désirable et plus compatible avec les limites planétaires. Est-ce que vous voudriez nous partager quelle vision du monde vous souhaitez influer auprès de ces visiteurs et visiteuses ?
Vaste question. Déjà, je pense que c'est important de recadrer le fait qu'on agit à notre humble échelle dans le cadre d'une association qui est ancrée dans son territoire au maximum. On cherche à faire en sorte que cet espace soit un peu une alternative à l'urbanisme courant, la recréation d'un espace public qui met au centre les communs, des choses qu'on puisse partager, co-construire ensemble, avec une forte dimension autour du lien social, qui est la première des valeurs qu'on porte, c'est le partage, les échanges, la rencontre entre les personnes, les Marseillais, mais aussi ceux qui viennent d'ailleurs. Et donc... on cherche à faire de la politique un peu différemment, c'est-à-dire de la politique au sens où on cherche à rassembler des citoyens pour faire ensemble. Et ça passe par notamment les chantiers participatifs, le fait qu'on travaille tous ensemble de manière coordonnée pour arriver à faire en sorte qu'on ait une parcelle qui permette l'expérimentation, qui permette les essais, qui permette les échecs et qui fasse en sorte qu'on apprenne tous ensemble en osant se jeter à l'eau dans un grand bac à sable, en fait. Donc c'est un peu ce qu'est-elle le TALU, ce qu'il est toujours aujourd'hui. Moi, j'y connaissais rien dans l'agriculture et en fait tout ce qu'on fait aujourd'hui au TALU au démarrage, mais c'était la meilleure école. le fait de pouvoir le faire ensemble et d'aller embrasser le fait de se planter, parce que c'est vraiment plus riche, je trouve, que le fait de réussir.
Oui, l'expérimentation fait vraiment partie de votre ADN, puisque quand vous êtes arrivé sur cette friche avec l'idée de redonner vie à ce sol en y mettant de la matière organique, et voilà, j'imagine que c'est assez technique et scientifique tout ça. Oh, pas tant que ça, Anaïs ?
Si, quand même. Complètement.
mais oui, on voit bien que l'expérimentation, c'est quelque chose que vous mettez en application dans le jardin, mais aussi avec cette programmation culturelle, avec une programmation sonore qui soit locale, mais peut-être aussi des artistes qu'on ne verrait pas ailleurs. Est-ce que tu veux nous donner un peu ta vision sur le faire ensemble, Anaïs ?
Le faire ensemble.
Comment tu le vis, toi, sein du Talus, ouais ?
Ouais, bah, c'est vrai. Je pense que c'est une belle façon de définir le quotidien au Talus, que ce soit pour les équipes, évidemment, sur les jours d'ouverture et les adhérents et adhérentes qu'on accueille ces jours-là, et sur aussi les jours où on n'est pas ouvert au public, parce que le leitmotiv, c'est justement de faire que ces journées d'ouverture au public soient le plus riches et le plus dans le partage et dans le faire ensemble. Donc, c'est quelque chose qui définit le Talus, que ce soit aussi bien au jardin qu'au village. Ça, c'est vrai que c'était une particularité au jardin. Et l'objectif n'était pas forcément coûte que coûte de la reproduire, mais je pense que c'est dans l'ADN du projet que de faire avec les uns et les autres. Et justement, je pense que ça a assez coulé de source avec la nouvelle colocation village et justement les résidents et résidentes village qui sont accueillis et qui agrandissent aussi cette équipe.
Et donc le Talus est situé donc dans le quartier Saint-Pierre, au pied des tours du quartier Herbel, qui est un quartier prioritaire de la ville, QVP, c'est ça qu'on dit dans le jargon,
QPV. Il me semble.
QPV, d'accord. Est-ce que vous voulez nous expliquer le rapport que vous avez avec les habitants, habitantes, ce rôle de sensibilisation que vous avez et de mixité que vous cherchez à atteindre, ou bien est-ce qu'au Talus, on ne trouve que des bobos de Marseille-Centre?
Donc oui, c'est vrai que depuis le début du projet, ou en tout cas mon arrivée une année ou deux après, ça a été l'objectif commun de l'équipe du Talus et inclus dans ses valeurs, que d'essayer de s'ancrer dans le territoire et évidemment à l'échelle de la ville, mais également à l'échelle de l'arrondissement, voire même à l'échelle du quartier. Le Talus se localise vraiment au pied comme tu disais, d'un des plus grands QPV de Marseille, quartier dit politique de la ville, qui regroupe environ 6000 personnes, et donc qui s'appelle le quartier d'Herbel, et qui pour lequel c'était très important de faire avec et ensemble. Voilà, sans aller vers une destination particulière, mais on se dit que ça valait vraiment le coup qu'on partage justement ce lieu et ces espaces à destination des habitants les plus proches, tout simplement. Quand je suis arrivée, on a lancé un partenariat avec l'école élémentaire d'Herbel. Donc toutes les classes du CP au CM2 sont passées par le Talus de manière hebdomadaire. Pas tout en même temps, évidemment. Et on a commencé avec des ateliers autour du jardin, avec un contenu... le Talus est quand même une grande maquette pédagogique. Donc, c'était assez facile de captiver l'attention, de transmettre, mais surtout de partager. Voilà, il n'y avait pas vraiment de leçon de vie derrière tout ça. C'était donner accès à tout ce groupe d'enfants. Leur donner accès à la nature, au contact avec le vivant et sortir un peu du quartier. Mais dans le cadre scolaire, ça, c'était quand même très important. C'est complètement intégré dans le programme des enseignantes qui adhèrent au projet. Et c'est vrai que du coup, avec ce premier partenariat, on a souhaité pouvoir complètement ouvrir nos portes à tous les habitants d'Herbel, sans distinction de scolarité. Et du coup, on retrouve des activités qui sont ouvertes. Donc, on est beaucoup relais des structures partenaires. Et on retrouve, on essaye de travailler avec toutes les associations de quartier et du coup, leur public bénéficiaire qui se mettent à avoir tous les âges différents, donc plus que les enfants de l'école élémentaire, et à travers, donc, pas seulement l'éducation à l'environnement, mais justement la dynamique de réemploi, de faire soi-même, de construction, d'accès à des ateliers de sensibilisation à l'alimentation, saine, locale et durable, un peu d'apiculture, enfin bref, pas mal de choses.
Là-dessus, moi j'aimerais bien avoir votre retour, plus vos sentiments là-dessus, parce qu'il y a 2 semaines, je suis passé voir le talus un dimanche où c'était fermé, c'était très propre, et à chaque fois que j'y passe, je trouve que le talus, c'est un endroit merveilleux. Et j'ai été à Herbel juste après, où ce qui m'a frappé en arrivant dans le quartier, c'était l'odeur de feu, en me disant, mais où est-ce que je suis en train de mettre les pieds, en fait? Et c'était sur des endroits où il y avait des voitures qui venaient de brûler, et il semblerait qu'il y ait eu pas mal de voitures qui aient brûlé dans Herbel ces derniers temps, parce qu'il y avait vraiment des endroits avec des voitures calcinées partout. Donc là, c'était vraiment des mondes qui s'entrechoquent et qui étaient vraiment à quelques mètres les uns des autres, plusieurs centaines de mètres, pas plus. Et c'est quelque chose sur lequel, quand on fait partie des milieux écolos, on nous en parle en permanence, de dire, en fait, comment est-ce qu'on réunit les mondes, comment est-ce que les propositions comment est-ce qu'on relie la fin du monde, la fin du mois, les questions écologiques avec les questions populaires immédiates des quartiers. Là, tu nous as présenté ce que vous faisiez, mais en termes de ressenti, je voulais avoir votre avis, votre ressenti, la façon dont vous percevez ces questions-là.
Waouh, question compliquée. C'est sûr que c'est une question centrale. Comment on arrive à faire en sorte que des préoccupations politiques communes à un certain nombre de personnes puissent être partagées dans un lieu et que ce soit au maximum ouvert à tout type de personnes de tous horizons, et qu'est-ce qu'on partage finalement? Donc quand on est un tiers-lieu, pour préciser, c'est un peu un mot barbare qui veut juste dire un lieu de rencontre. C'est pas le premier lieu qui est la maison, c'est pas le second lieu qui est le travail, c'est le troisième lieu qui est un lieu dans lequel on vient se rencontrer, qui est un lieu public avec plein d'activités. Et dans un tiers-lieu, ben, on se pose toujours la question de qui fréquente ce lieu. Est-ce que c'est un entre-soi? Est-ce que c'est un croisement de différents milieux? Et en fait... c'est un peu toute la question qu'il y a autour d'un tiers-lieu, c'est comment on propose un aménagement d'infrastructures et une diversité d'activités qui permettent que chacun puisse y trouver quelque chose qui l'intéresse, qui l'attire en premier lieu, et qui lui permette de découvrir d'autres choses par ce biais-là, d'autres personnes qui puissent par hasard peut-être croiser le chemin de personnes qui n'auraient pas croisé autrement. Et voilà, nous on essaie simplement de créer des interactions, de créer des échanges, de créer du partage. Comme on disait, on fait vraiment de la politique par le fait de rassembler des citoyens. On n'a pas la prétention de pouvoir répondre à des problématiques sociales qui touchent à un système dans lequel on est enchâssé et pour lesquels tous les citoyens sont actifs à leur niveau. Mais nous, voilà, que ce soit au niveau écologique, que ce soit au niveau social, que... On a encore l'humilité de dire que voilà, nous, on cherche vraiment à créer des activités qui correspondent à tout le monde. S'il y a une mixité, c'est bien, mais ce qu'on cherche à faire avant tout, c'est de considérer l'intégralité des publics qui se situent sur un territoire. Et on va essayer de plus être ouvert à ce que les gens ont à nous dire plutôt que nous à essayer de capter des oreilles et à dire et à faire descendre une information. Donc vraiment... On cherche à créer des expériences et à créer un endroit qui puisse être le plus inclusif possible au maximum de public. Après, nous, voilà, ce qu'on sait, c'est que c'est beaucoup d'énergie humaine que de créer du lien avec les habitants de Marseille et d'ailleurs, et qu'il faut y consacrer du temps. Donc, on est très content de pouvoir aujourd'hui avoir... une salariée à temps plein qui est responsable de vie associative, qui est vraiment responsable de créer ce lien, de l'entretenir avec tous les autres publics du talus, tous les adhérents, tous les autres salariés. On va très prochainement accueillir une ou un médiateur socioculturel qui va être également chargé de créer ce lien, de l'entretenir et à partir de là de faire en sorte qu'on ait les oreilles encore plus grandes ouvertes pour savoir quels sont les besoins de chaque personne du territoire et comment potentiellement on peut y répondre ensemble.
Superbe réponse. Tu trouvais que c'était une question difficile, mais la réponse est très, très construite. Et je posais la question à tous les deux. Donc Anaïs, je serais aussi intéressée de voir comment toi, tu perçois ces questions-là.
Eh ben, c'est vrai que ces questions, elles sont évidemment visibles et palpables et évidemment légitimes. Et il faut se les poser. Et je pense qu'il ne faudra pas arrêter de se les poser. Parce que c'est sûr que le talus étant implanté là où il est vraiment visité par un large panel de personnes. Voilà, évidemment qu'on souhaite satisfaire tout le monde, mais faut quand même voir ce qu'on propose. Et autant je pense que ça peut beaucoup être visible quand on accueille des publics jeunes. Tu vois, tu parlais un peu de la situation dans le quartier d'Herbel, qui est quand même assez, je pense, qui impacte aussi les jeunes populations. Enfin, c'est un peu plus visible, cette précarité et ce niveau de pauvreté, clairement. Mais ça donne aussi des perspectives de voir que quand ça fait plusieurs années que tu accueilles des publics et qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils commencent à revenir avec les cercles familiaux un peu plus élargis et les cercles amicaux un peu plus élargis et qu'ils se retrouvent sur d'autres activités, là ça devient beaucoup plus... Ça prend sens et ça fait corps et force, et après tu te dis que évidemment c'est évidemment pas suffisant et tu te substitues pas au pouvoir public, mais ça vaut le coup de se re-questionner tout le temps. Voilà, et de pas évincer ou de te dire que tu as la solution. Et je pense que ça fait une force aussi. Des publics convaincus et d'autres qui sont en pleine découverte. Et puis nous, comme ça, on change de position aussi régulièrement, et c'est agréable.
Moi, je me demandais si les habitants, habitantes des environs du Talus se sentaient tous légitimes, quelque part, à pousser le portail du Talus et à venir. C'est-à-dire que vous avez fait tout ce travail auprès des publics scolaires. Donc, voilà, peut-être que c'est une porte d'entrée, c'est bien prouvé. Mais voilà, avec tout ce travail que vous faites auprès des associations locales, est-ce que c'est suffisant pour gagner la confiance quelque part des habitants, habitantes, et pour qu'ils se sentent à leur place en venant dans ce tiers-lieu ?
Alors, c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde régulièrement. C'est-à-dire, est-ce que... donc, c'est pas pour l'éloignement géographique, parce que je pense que entre le Talus et les portes du quartier d'Herbel, c'est grosso modo 5 minutes à pied. Et voilà, on se questionne toujours sur est-ce qu'on est vraiment accessible, et pas seulement géographiquement, en termes d'accessibilité économique, en termes de diversité d'activités, en termes de disponibilité aussi humaine. Est-ce qu'on est vraiment accessible ? Et il est revenu cette question de est-ce que les gens se sentent à l'aise ou légitimes de pousser la porte du Talus. Le quartier d'Herbel, c'est 6000 personnes. Du coup, je ne peux pas vraiment vous faire une réponse complètement globale. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'encore pas suffisamment, et c'est vraiment peut-être l'effort qu'on transmet le plus et le maximum. C'est-à-dire essayer, même si ça peut prendre du temps et ça nécessite même des fois... Parfois un déplacement physique, c'est clairement ce qu'on fait. On organise des activités et il y a besoin même qu'on aille chercher les gens dans le quartier. Du coup, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Pour que voilà, le passage de ces grandes portes qui donnent sur un jardin très bien rangé et un beau village bien agencé soit le plus doux possible et le plus facile, tout simplement.
Merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes à peu près. Et je vais vous proposer un petit exercice. Vous le savez, le but de la forêt des possibles, c'est de passer du moi au nous et du nous au tout. Et donc d'inviter toutes celles et ceux qui nous écoutent à se rendre compte qu'ils peuvent avoir leurs questions, leurs problématiques, faire des projets, et que ce projet, à son échelle, humblement mais à son échelle, participe à changer la société. Et généralement, ce qu'on propose sur la fin, c'est de proposer l'imaginaire d'une Marseille qui a réussi sa transition. Et donc ce que je vous propose, c'est que chacun, chacune, vous présentiez un Marseille idéal en 2030 qui aurait réussi une transition et la place qui prendrait le Talus dedans. Quelqu'un veut commencer ?
Je peux essayer. Du coup, pour moi, une Marseille qui aurait réussi sa transition, c'est d'abord une Marseille qui a réussi à réparer la fracture qui compose son urbanisme, la fracture qui compose les types de vie très différentes que peuvent vivre un Marseillais ou une Marseillaise et une autre sur le territoire, que ça passe par les transports ou la manière dont on agence la ville. C'est central dans la manière dont on est capable de faire corps dans une ville commune. C'est également une ville qui est capable de permettre à ses habitants de bénéficier d'un lien avec la nature en ville. Et je dis bien en ville, puisque bien sûr il y a les Calanques et tous les magnifiques environnements qui entourent la ville de Marseille, mais au sein de la ville, c'est plutôt compliqué d'être en lien avec la nature. Et voilà, c'est une ville qui est très minérale, qui chauffe beaucoup en été et qui mériterait d'être beaucoup plus imbriquée avec un environnement naturel. C'est également une ville qui devrait pouvoir impliquer les citoyens dans l'aménagement et l'entretien de ces espaces pour essayer de réparer cette fracture qu'il peut y avoir entre une gestion de l'espace public et une utilisation, dégradation d'un espace public qui peut être vu comme étant géré par et pour autrui. Et donc encore une fois, tout en revient à cette fracture et cette implication, cette responsabilité qu'on peut ressentir à être Marseillais, à partager le fait de construire et d'entretenir sa ville. Donc je pense que vraiment, pour le coup, Marseille est une très bonne illustration du fait que la question sociale est centrale dans la transition écologique.
Et le talus dans tout ça ?
Et le talus dans tout ça peut être une inspiration pour recréer d'autres lieux qui mettent au centre du jeu le commun et l'expérimentation. Et surtout que voilà, on puisse faire de l'espace vert autrement, faire de l'espace de rencontre autrement, faire de l'espace culturel autrement, essayer de faire en sorte que ce soit... qu'on casse un petit peu les normes hyper écrasantes qui font que bah, quand on est un petit et qu'on essaye de construire un projet, bah, c'est très compliqué de le monter puisque... parce qu'on joue avec les règles des gros. Et ça, je comprends toujours pas que dans la société, on n'ait toujours pas fait un... Enfin, il y en a, hein, mais des permis de faire, des permis d'essayer, des permissions pour que des citoyens puissent essayer des choses et que les règles et les lois ne soient pas des entraves à tout ça.
Et on espère que le succès du talus sera un exemple tant pour les citoyens et citoyennes qui souhaitent lancer des projets que pour les pouvoirs publics qui ont la possibilité de donner naissance à ces projets. Donc ouais, moi c'est là où je vois le rôle du talus. Ouais. Anaïs, comment imagines-tu Marseille qui aurait réussi sa transition ?
Alors, large transition. C'est vrai que je rejoins Carl à 100% sur réduction de la distribution de l'accès à la ressource, parce que c'est vraiment la base, et de la mobilité géographique et de la réappropriation environnementale, sociale et citoyenne de cette ville qui a un énorme potentiel, mais qui vraiment décide de distribuer d'une manière historique et vraiment inégale sa richesse. Et c'est vrai que moi, je suis très attachée à la Méditerranée et je trouve aussi que, ouais, avoir une valeur ajoutée à l'utilisation de la frange côtière est évidemment pas pour tomber dans le schéma balnéaire, mais plutôt, on a quand même une diversité de côtes et de littoraux dans cette ville qui fait à peu près une trentaine de kilomètres et, bon, évidemment avec des activités commerciales, mais voilà, c'est je trouve un accès à une ressource naturelle et à un contact avec la nature qui est l'eau de mer et une si belle mer. Je trouve que ouais, ouvrir des accès de baignade et de transmission autour de la nage, je trouve que c'est assez important. Le lien avec le talus ?
Mmh.
Alors, donc faire une piscine pour apprendre à nager. Non, mais ou une mare. Mais le lien avec le talus, ouais, si ça peut inspirer évidemment, mais en tout cas, on n'est pas les seuls à œuvrer dans ce domaine-là, mais inspirer des gens à s'essayer, s'expérimenter, que ce soit sur des terrains privés ou réussir à obtenir du foncier bâti ou non bâti, et peut-être même avec beaucoup plus d'ambition, orienter les décisions politiques et la place des services publics dans justement cet accès à la nature en ville, comment on vit sa ville, les accès aux ressources, à l'alimentation. Et on a un grand territoire, donc essayons de voir si distribuons l'accès d'une manière différente à tout ça.
Ouais, Marseille a quand même l'avantage d'être une ville très étendue, que ce soit autour de son centre-ville jusqu'au Calanque. Et j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup d'espaces qui ne demandent qu'à être réinvestis pour que de beaux projets naissent. L'émission touche à sa fin. Un grand merci Anaïs et Karl pour ce moment. J'étais ravie de vous recevoir. On était ravis de vous recevoir à notre émission. Est-ce que vous avez un mot de la fin?
Ouais, on peut dire un immense merci à toute notre équipe. Gros big up et à tous nos adhérents. Qui constitue tout le projet du Talus. Ça, on peut avoir tendance à individualiser des fois les choses. Et pour le coup, le Talus, c'est un projet collectif. Il y a plus de 5000 adhérents en 2023 dans cette association. Et c'est voilà, la force collective qui doit nous permettre d'avancer. Donc merci à tous.
Merci. Et c'est ça, le Talus est ouvert le mercredi et le samedi. Et en ce qui nous concerne, la forêt des possibles, on nous retrouve la semaine prochaine avec les petites cantines. Bonne soirée.
Bonne soirée.